Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon mardi matin, j'espère que vous êtes un peu reposés en fin de semaine où il faisait un temps magnifique, c'est moins vrai aujourd'hui. On va s'occuper de pas mal de choses, des dossiers importants. Évidemment, cette première heure sera dédiée à la COVID, bien sûr, parce que là, il y a toutes sortes de choses qu'on a entendues au cours des dernières heures, entre autres. Une nouvelle que j'ai trouvée assez intéressante qui nous vient de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit finalement que le confinement à outrance, c'est pas quelque chose qu'il privilégie. Alors, plusieurs mois après le début de cette pandémie, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est quoi? Ça veut dire que confiner à tout bout de champ, c'est peut-être pas ce qui est recommandé et qu'il y a d'autres façons de faire. Je trouve ça intéressant parce que déjà depuis quelques jours, chez nous aussi, il y a des spécialistes, je pense entre autres à une pédiatre éthicienne qui nous a dit la semaine dernière qu'il fallait peut-être repenser les objectifs de santé publique. Elle dit il faudrait faire appel à d'autres spécialistes. Il n'y a pas que des directeurs de santé publique dans la vie, puis la santé publique, c'est pas une religion non plus. Il faudrait faire appel peut-être à des ingénieurs, peut-être à des gens de sciences humaines, pour essayer de revoir vraiment tout le plan, là. C'est comme si elle dénonçait l'espèce de vision court terme où on ferme dès qu'on voit que les taux d'infection dépassent ce qu'on a considéré comme étant des normes. Et bien sûr, vous avez entendu le message des pédiatres la semaine dernière qui disait les jeunes payent beaucoup trop. Ils payent beaucoup trop pour rien. Il y a une espèce de facture démesurée qui est payée par la jeunesse un peu partout, mais surtout ici au Québec. Et elle rappelait des chiffres qui sont effectivement les bons, c'est-à-dire que les éclosions, où sont-elles? Elles sont pas tellement à l'école, sinon en milieu de travail. Puis elle posait la question aussi, pourquoi les jeunes de secondaire 4 et 5, par exemple, vont pas à l'école une journée sur deux, hein? Mais pourquoi les gens âgés ont le droit de se promener au Costco? Tu sais, il y a des espèces de choses comme ça qu'on a envie de comprendre. Et là, évidemment, la nouvelle depuis les dernières 24 heures, c'est qu'il y a des spécialistes qui nous disent, oui, attention, faudrait peut-être se méfier plus de la transmission aérienne. Alors, on va parler un peu de tout ça ce matin. Je vais vous demander d'ailleurs si votre environnement, d'après vous, que ce soit à la maison, si vous êtes plutôt tranquille chez vous, comme on vous conseille de faire, ou si vous devez quand même travailler, que ce soit en CHSLD, en milieu hospitalier, à l'école, au bureau, votre environnement est-il, d'après vous, assez aéré? Pour vous protéger des fameuses gouttelettes du virus, on nous dit, entre autres, que les gouttelettes et les aérosols, il faut faire la différence. Ben, pour le faire, on va faire appel à des spécialistes. Mark Hamilton, vous le connaissez bien maintenant, il est microbiologiste. Bonjour, Monsieur Hamilton.
Oui, bon matin.
On va essayer de clarifier ça là, pour notre auditoire. Essayez de nous expliquer un peu là, cette différence. Là, on dit, entre autres aux États-Unis, le gouvernement américain, là, les centres de contrôle et de prévention des maladies, on dit qu'il faudrait peut-être augmenter notre seuil de tolérance par rapport à la taille des gouttelettes respiratoires qui forment des aérosols. C'est quoi, dans le fond, la différence entre un aérosol par gouttelette projetée et dans l'air, là, en particules aérosolées?
Ben, on sait que la particule virale, si on prend le virus lui-même, là, le COVID, a une grosseur à peu près plus petite que 0.3 micromètres. Donc, c'est très, très, très petit. Ça se voit pas à l'œil nu. Donc, ça, c'est, on parle d'un virus. C'est sûr que le virus, c'est rare qu'il va être tout seul. Il va toujours s'agglutiner dans un champ humide. Une micro-gouttelette, là, ou comme un aérosol, il y a de l'humidité autour du virus qui est projetée, si on veut, de notre bouche. Et on va aller chercher à peu près 100 nanomètres, donc à peu près là, la même grosseur là, pour à faire un amoncellement de virus qui va se retrouver dans l'air ambiant. Et la distinction entre ce qu'on fait, les micro-gouttelettes ou ce qu'on appelle les postillons, lorsqu'on éternue, on voit le nuage. Que, quand on le voit, c'est parce que c'est des gros postillons, ça va pas très loin. C'est là le fameux 2 mètres. Mais les aérosols, là, comme l'étude le dit, c'est quand on éternue, il y a des petites particules qui sont aéroportées. Ça veut dire qu'elles sont très, très légères et elles ne tombent pas directement sur le sol. Donc, on va avoir tendance à rester, et ça, c'est ça qui l'étude, si on la pousse un petit peu plus loin, les particules aéroportées peuvent rester dans l'air ambiant jusqu'à 3 heures. Donc, dès que vous éternuez dans un local qui est fermé, mettons, et que l'air ne bouge pas, que l'air est en suspension, la petite micro-gouttelette que vous avez éternuée 3 heures auparavant peut se retrouver encore dans l'air ambiant et contribue, si on veut, à contaminer l'air et qui fait qu'on peut rentrer en contact beaucoup plus longtemps que le fameux 2 mètres et l'instantané sur une certaine période, qui fait qu'on peut, si on veut, créer un climat infectieux pour les personnes qui restent dans ce local-là.
Donc, est-ce que vous êtes en train de dire que le 2 mètres, finalement, c'est presque une mesure aléatoire selon qu'on est à l'intérieur d'un espace qui n'aurait pas été aéré comparativement à être dehors, par exemple?
C'est une valeur théorique. Quand le 2 mètres, là, c'est très théorique. On le dit depuis le début, on dit 1 mètre, 1,5, c'est rendu 2 mètres. Donc, c'est une valeur théorique qu'on garde nos distances. C'est sûr que quand on respire, quand on fait que parler, de rester à 2 mètres, c'est rare que les postillons ou les particules aéroportées vont voyager longtemps parce qu'il y en a très peu qui va sortir de notre bouche. C'est sûr que si on crie, on chante, on éternue, on tousse, mais nos poumons vont donner un exercice supplémentaire pour sortir, si on veut, cet aérosol-là et les projeter dans l'air. Donc, le 2 mètres, c'est évident que lorsqu'on peut juste jaser qu'une personne, et surtout si on porte un masque, ben c'est suffisant, là, on s'entend. Là. Mais on parle que si on ne porte pas de masque, et qu'on éternue, et c'est évident que le 2 mètres devient abstrait. Là. Autrement dit, lorsqu'on éternue, c'est sûr que les études, on le voit beaucoup, là, ça peut aller jusqu'à 7-8 mètres là, en termes d'aéroportée. Et cet aéroportée-là va rester quand même assez longtemps. C'est ça qui est curieux, c'est que les particules sont tellement légères qu'ils ne tombent pas à terre. Et c'est ça qui fait que jusqu'à 3 heures, les études dans le laboratoire disent, regarde, une particule aéroportée dans un endroit non ventilé peut rester en suspension jusqu'à 3 heures dans l'air.
3 heures, c'est long, là?
Ben effectivement, imaginez lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans un local non ventilé, puis qu'il y a une ou deux personnes qui seraient porteuses, mettons, du virus et qui l'éternuent ou ce genre du genre. Et surtout, si on n'a pas de masque, on s'entend. Là, c'est là que ça devient... Parce qu'on sait que le masque, on le porte en milieu de travail lorsqu'on n'est pas capable de respecter le 2 mètres. Mais dans le cas où vous êtes dans un local, où est-ce que vous respectez le 2 mètres, mais que vous êtes dans un gros local moins ventilé, puis que les gens éternuent, ben, c'est évident que les particules aéroportées peuvent facilement faire le tour du local.
Donc, pour vous, le port du masque qui est constamment remis en question... est-ce qu'il est quand même assez important?
Il est très important. Le masque, là, même s'il y en a qui disent « Bon, mais c'est un masque en tissu, c'est un masque en papier, c'est un masque... » Écoutez, le masque fait en sorte qu'il va ralentir de beaucoup la progression des micro-gouttelettes dans l'air parce que lui, là, le but de ça, c'est que les aérosols, c'est toujours transporté via l'humidité hein, qui sort de notre bouche, qui sort de nos poumons, nos sécrétions. Et on le sait qu'un masque de procédure ou de tissu ne filtre pas 100% des particules qu'on va mettre dans l'air, comme un N95, par exemple. Mais il va en ralentir, s'il en coupe 60, s'il en coupe 70, 80%, mais c'est beaucoup moins de charge virale, beaucoup moins de virus qui va s'en aller dans l'air ambiant. Donc, oui, il ralentit beaucoup la progression et de la propagation du virus dans l'air.
Donc, plus de masques, moins de gouttelettes dans l'air, donc moins de virus dans l'air également et donc moins de propagation.
Exactement. Et on sait que moins que de virus dans l'air, on diminue de beaucoup le niveau d'infection. Parce qu'on le sait que les études, de plus en plus d'études le prouvent, c'est que faut être en contact avec une certaine quantité de virus. C'est sûr que d'avoir, exemple, 3-4 particules virales dans l'air que je rentre en contact avec, ce n'est pas suffisant. On le sait que ça prend plusieurs centaines, voire des milliers de virus dans l'air qu'on va respirer pour créer la maladie. Donc, moins il y a de charge virale dans l'air ambiant, dans un milieu contaminé, plus on diminue la probabilité d'une infection. Donc, c'est sûr que si on est à côté de quelqu'un qui est très infectieux, quelqu'un qui a la COVID et qui l'éternue, ben il va projeter des centaines de millions de particules dans l'air. On sait qu'une personne qui a la COVID, là, qui est asymptomatique ou qui a la COVID, lorsqu'il éternue, c'est pas 10-12 particules virales qu'il va envoyer dans l'air, c'est des millions, des centaines de millions de particules d'air, de particules virales qu'il va mettre dans l'air. Donc, voyez-vous l'importance d'avoir un masque Je ne dirais pas qu'il y a avoir zéro particule dans l'air, mais imaginez, si on porte un masque de quelqu'un qui est hautement positif, bien, c'est pas 100 millions qu'il va envoyer dans l'air, c'est peut-être un 10-15% de cette quantité-là. Fait qu'on diminue beaucoup la charge virale. Et si on est dans un environnement où est-ce qu'en plus on a un bon système de ventilation, où est-ce qu'on a des bons, on a un minimum de changement d'air à l'heure, je dirais 3-4 minimum changement d'air à l'heure, c'est ce qui va faire en sorte que ça va disperser beaucoup plus rapidement ces micro-gouttelettes-là et diminuer beaucoup les risques d'infection.
Voilà. Et c'est là où je vais vous amener parce que les changements d'air, on en a parlé un peu, pas beaucoup par rapport à tout ce qu'on apprend de plus en plus sur le virus. Ce que vous confirmez ce matin, c'est que le virus voyage avec les aérosols. Donc, vous dites, quand on tousse, qu'on parle fort, les gouttelettes sont en suspension. Et ces particules aéroportées peuvent rester jusqu'à 3 heures dans l'air. Ça peut être 4, hein? Bon, 3 heures, 4 heures, ou enfin, on sait que ça reste dans l'air plus longtemps qu'on le pense. Ouvrir la fenêtre, est-ce que c'est déjà un début de solution pour vous, Mark Hamilton?
Absolument. Tout ce qui va emmener de l'air frais de l'extérieur, qui va emmener un pourcentage de dilution, qui va éliminer l'air vicié, du moins diluer l'air vicié dans un local, c'est excellent. Donc, c'est sûr que là, c'est dommage parce que les temps froids arrivent et qui fait que, bon, si on ouvre notre fenêtre, on va payer plus cher de chauffage. Mais il reste que c'est une excellente idée de faire rentrer l'air ou de trouver un moyen de notre système d'air climatisé, d'avoir un apport d'air frais supplémentaire. Les échangeurs d'air dans une maison, ajustez-les pour qu'ils donnent plus un apport d'air frais supplémentaire dans votre maison qui va contribuer à changer l'air plus souvent dans votre maison. Donc, tout système qui va faire en sorte qu'on peut changer l'air, qu'on peut filtrer l'air d'une manière efficace est crucial à ce sens-ci.
Bon, écoutez, Mark Hamilton, microbiologiste, vous restez avec nous. Il y a plein de questions fort intéressantes encore là, dont on doit discuter. Les auditeurs en auront peut-être également. Et bien sûr, je suis sûre que tout ce que M. Hamilton nous a dit jusqu'à maintenant, ça vous a généré aussi des commentaires parce que toute la question de l'aérosol, des gouttelettes, et c'est pour ça là, qu'on nous confine. Peut-être que l'idée, c'est plus de nous dire finalement, tu sais, l'expression « fait de l'air » aura jamais été aussi sensée. Ça fait énormément de logique. C'est énormément logique de dire « on va faire de l'air, on va diluer l'air ambiant pour essayer de faire en sorte que les particules aéroportées soient dispersées et qu'elles restent pas comme ça dans l'air qu'on respire parce que c'est là où le virus voyage. » Mais remarquez, ça vaut pour la COVID comme ça vaut pour n'importe quel autre virus d'ailleurs. On aura l'occasion de revenir là-dessus avec notre microbiologiste. Si vous avez des questions et surtout des commentaires, d'ailleurs, je vous pose la question directement. Est-ce que, d'après vous, votre environnement, là, celui dans lequel vous vivez, dans lequel vous travaillez, est-ce que c'est assez aéré à votre goût, d'après vous, pour vous protéger de ces fameuses gouttelettes du virus? 514-790-9850. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. À tout de suite. On se rend compte de plus en plus, et c'est confirmé par des experts aux États-Unis comme chez nous, qu'il faut à tout prix aérer notre environnement pour nous protéger du coronavirus. C'est important que l'air soit changé au moins 3-4 fois à l'heure. On a Cathy qui nous appelle. Vous pouvez faire comme elle au 514-790-9850. Bonjour Cathy.
Bonjour.
On vous écoute parce que c'est intéressant ce que vous vouliez nous dire. C'est que vous avez un enfant qui est en secondaire 2. Dans une classe où il n'y a aucune fenêtre?
Oui, il y a beaucoup d'écoles qui ont fait ça, c'est augmenter les classes par l'intérieur, vu qu'ils sont trop petites. Donc là, ça lui donne un local, aucune fenêtre. Donc, il y a une porte de sortie. Déjà là, pour le feu, j'aime pas beaucoup ça, mais déjà là, pas de clarté. Et ils doivent rester le midi et le lunch, pas le midi, la pause et le lunch dans la classe.
Fait qu'ils sortent jamais, finalement?
Jamais. À aucun moment.
Mais ils vont même pas s'aérer eux-mêmes? On les sort pas dans la cour, rien?
Non, la seule chose, moi, j'avais réussi à rejoindre son prof de français par email, puis le prof de français, même elle, elle m'a répondu comme quoi qu'elle essaierait le plus possible dans sa classe de sortir, soit dans le cadre du cours de français, mais j'ai pas eu d'autres nouvelles, par contre, pour les autres matières. Puis là, il va faire froid un peu. On n'est pas... on ne sait pas trop ce que ça s'en va avec ça. Là. Moi, j'ai laissé des messages beaucoup, soit à l'école ou même à la commission.
Est-ce qu'ils vous rappellent?
Pas ça brillant. Ben là, ils ne m'ont pas rappelé. Moi, comme je dis, j'ai inclus des nouvelles de la professeure. Puis elle aussi, tu sais, je dis, même les professeurs, eux autres, ils n'aiment pas ça, là, dans ce local-là. Ils sont pris là. Puis même la façon qu'elle me le dit, elle dit, je ne laisserai pas... comment je pourrais dire ça? Pris dans cette classe beige sans fenêtre. C'était vraiment comme une place vraiment pas le fun à aller. Elle dit, je laisserai pas toute la journée pendant 8 heures, mais ça fait partie de son cours, mais il n'y a pas des cours de français à tous les jours. Ça
veut
pas
dire qu'elle va pouvoir. Voyons donc. Écoutez, j'en viens pas, Cathy, de ce que vous nous dites ce matin. Il y a plusieurs
Moi
choses.
Moi non plus.
Ben d'abord, je comprends votre inquiétude. Hein? Vous devez être inquiète pour votre enfant de 13 ans.
Ben, disons que lui, l'école, déjà là, il est double. Il a redoublé l'année passée. Donc, déjà là, l'école, c'est difficile pour lui. Là, de penser à ce qu'il va rester 8 heures sans... Moi, je serais même pas capable en tant que personne adulte. Puis on en fait plein de concessions. Nous autres, on est une famille comme on pourrait appeler comme les moutons. Là, c'est, on met le masque, on fait attention. On sort pas. Je vois pas ma famille. Je vois pas ma mère. Je vois pas personne. Sauf que... Quand je me rends compte que mon enfant il est pris dans une classe comme ça, et lui-même, il me dit, ben j'aimerais mieux rester à la maison tant qu'à ça, là, parce que ça n'a pas de temps, 8 heures.
Ben je comprends tellement. Puis l'autre chose qui me fait vraiment réagir, c'est aussi que vous dites, j'ai laissé plusieurs messages à l'école et personne ne prend le temps de vous rappeler, franchement. Ça, ça aurait le don de me frustrer, moi. Boy.
Il y a eu un qui m'ont répondu au début, ça m'a resté sauté, c'était la commission, le ministre de l'Éducation. J'ai envoyé un email un peu partout, là, parce qu'il était fâché. Puis le soir même, puis le matin, il m'avait envoyé un email, par contre, me disant de faire appel à l'enseignant, après ça, à l'école. Et après ça, ils m'ont référé une personne qui vérifie l'étudiant, dans le fond, le bien-être de l'étudiant. Là, ouais. Il y a un nom pour ça. Là. Donc, il y a eu eux qui m'ont quand même répondu. Là. Ils
ont On vous a envoyé un email. Mais la personne qui est en charge, supposément, du bien-être de votre enfant, est-ce qu'elle vous a rappelé, cette personne-là?
Non, je me suis pas rendue jusque-là. Moi, j'ai eu c'était la première journée jeudi passé. J'ai laissé la fin de semaine. Là, le professeur de français elle m'a envoyé un email. Donc, tu sais, je sais qu'on se réajuste à fur et à mesure. Je peux pas m'en vouloir à l'école de faire ça, sauf que ce que je serais fâchée de l'école, c'est de ne pas s'organiser à soit changer les élèves de classe durant la journée, une pause différente avec... Tu sais, il y en a plein. Au pire, demandez-leur aux élèves. Je suis sûre que si vous arrivez puis vous demandez aux élèves quelles sont les possibilités qu'on pourrait faire, parce que là, on peut pas se voir entre les classes, comment qu'on organise les pauses, ils vont arriver avec des idées inimaginables.
Oui, exactement. Merci beaucoup de votre appel, Cathy. Merci bien. Bon courage à vous puis à votre fils. On a Patrick Champagne avec nous. Il est biochimiste. Il est spécialiste en qualité de l'air chez Enviro Options. Je trouvais que c'était intéressant de vous parler, Monsieur Champagne, ce matin. Bonjour. Merci de prendre le temps.
Oui, bon matin,
d'entrée de jeu, j'ai envie de vous demander de réagir à la situation que Cathy nous a exposée, c'est-à-dire son enfant, son fils, qui est en secondaire 2 avec d'autres élèves dans une classe, pas de fenêtre, on les sort pas, ils mangent là, ils prennent leur pause là, 8 heures par jour. C'est complètement, il me semble, antinomique par rapport à ce que Mark Hamilton, tout à l'heure, notre premier invité qui est microbiologiste, nous disait. Il disait que ça prendrait 3 à 4 changements d'air à l'heure. Imaginez, là, des enfants, 8 heures sans sortir, à respirer les mêmes gouttelettes. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, Patrick Champagne?
Dans un premier temps, il faut savoir, évidemment, j'entends la personne qui est intervenue avant moi, mais ça va de soi pour l'enseignement. C'est sûrement pas une bonne chose d'avoir des enfants qui sont cloîtrés dans une pièce pendant 8 heures. Ça, ça va de soi. Notamment au niveau du moral, quand on entend l'étudiant qui dit « Écoutez, j'aimerais mieux être à la maison que dans cette situation-là », évidemment parce que c'est pas intéressant. Pour ce qui est de la transmission des micro-gouttelettes, par contre, il faut peut-être voir à tenter de paramétriser les choses un peu, parce qu'il faut savoir que ces classes-là qui ont été conçues à l'intérieur des bâtiments sont munis de systèmes de ventilation et ces ventilations-là amènent un changement d'air. Il est certain qu'il y a un changement d'air qui s'opère dans la pièce parce que moi-même, pour l'avoir vérifié dans certaines classes, À partir du moment où le niveau de dioxyde de carbone augmente de façon significative, les étudiants, les gens qui participent aux classes deviennent léthargiques. En fait, ça fatigue, on devient inconfortable, tout ça. Alors,
on a mal à la tête, par exemple.
Oui, absolument. C'est ça. On veut bouger, on a la bougeotte, on perd notre concentration, on arrête d'écouter le professeur. Tous ces phénomènes-là, on les connaît maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les systèmes mécaniques de ventilation sont dosés ou contrôlés pour amener un apport d'air suffisamment important pour réduire le niveau de dioxyde de carbone. De ce fait, ils vont diluer des contaminants qui sont présents dans l'air et probablement se rapprocher d'une ventilation qui est plus adéquate. De vous dire dans ce cas-ci précisément quel est l'impact de la ventilation et du fait qu'on conserve les élèves pendant 8 heures dans la classe, je ne pourrais pas vous le dire. Chose certaine, c'est que du côté scientifique, on tarde un petit peu à démontrer des paramètres reliés au COVID. On sait très bien que s'il y a un manque de ventilation, il y a une augmentation de la concentration des contaminants et évidemment d'une exposition des sujets. C'est vrai pour la COVID, c'est vrai pour les poussières, c'est vrai pour les métaux, c'est vrai pour à peu près n'importe quoi. Et différentes activités qui vont avoir lieu à l'intérieur des espaces vont favoriser la resuspension des fameuses micro-gouttelettes. Alors, de vous dire précisément qu'est-ce qui arrive pour une classe, c'est difficile de le faire, mais on doit penser d'abord au bien-être des étudiants et, dans un deuxième temps, évidemment, d'une ventilation suffisante pour réduire les risques d'innocuité du virus.
Ce que nous disait, entre autres, l'Université du Maryland, là, le spécialiste des aérosols aux États-Unis, là, qui entre autres, a soulevé à nouveau une question donc qui a été soulevée chez nous quelques fois quand même, c'est toute la question de la ventilation des aérosols. Ce qu'il disait, en gros, c'est que finalement, il y avait plus de virus dans une petite particule aérosolisée que dans un postillon qui ne voyage pas dans les airs. C'est ce que nous disait aussi tout à l'heure mon invité Marc Hamilton. Vous êtes d'accord avec ça, Patrick Champagne, que dans le fond, il faut se méfier de la transmission aérienne par ces particules d'aérosol et que ce n'est pas tellement finalement le 1 mètre, 1,5 ou le 2 mètres qui est la première affaire à surveiller, là, que ça serait vraiment plus l'aérosol.
Pas tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les micro-gouttelettes ont une dimension qui est d'à peu près 5 micromètres. C'est quand même significatif. Ces micro-gouttelettes-là vont avoir une charge virale qui est plus importante que le simple virus lui-même, qui est nettement beaucoup plus petit en termes de dimension. Alors, les micro-gouttelettes, on doit se méfier de ça. On parle beaucoup des voies respiratoires. Il faut penser aussi à la protection oculaire. Les gens oublient de se méfier des projections qui peuvent atteindre les yeux. Alors, le masque, oui, et les lunettes, quand on est dans un contact plus près, à l'intérieur de la distanciation sociale, il faut se protéger des yeux et des voies respiratoires pour les micro-gouttelettes.
Les yeux aussi, à ce point-là, vous diriez, au même titre que la bouche ou le nez?
Oui, absolument. Par exemple, si vous avez à porter assistance à quelqu'un qui est contaminé et vous devez passer un certain temps avec cette personne-là, vous allez préférer utiliser un respirateur de type N95, des lunettes ou un masque, comme les gens vont le faire dans le système de la santé, parce qu'on est mieux protégé pour les micro-gouttelettes et, évidemment, contre les aérosols. Si, par contre, vous gardez vos distances de 1 à 2 mètres, les micro-gouttelettes ne se rendront pas, mais les aérosols peuvent rester en suspension. Ouais. Et c'est là l'importance de savoir quel est le niveau de ventilation dans le bâtiment. Il ne faut pas perdre de vue qu'on parle d'un virus avec enveloppe. Je vous explique rapidement. Ce virus-là, il est sensible, il est fragile, ce qui fait en sorte qu'il va facilement s'inactiver dans l'air et sur les surfaces. Donc, on pourrait avoir une certaine charge de virus dans l'air, mais avec le temps, cette charge-là va s'atténuer, va diminuer. En ce moment, on parle d'une demi-vie d'à peu près 3 heures dans l'air. C'est très préliminaire. On pourrait prétendre que la quantité de virus qu'on retrouve dans l'air à un moment précis va diminuer de moitié au bout d'à peu près 3 heures.
Il va en rester, mais il y en aura 2 fois moins, c'est ça?
Exactement, c'est ça. C'est très, très important. Et il faut savoir qu'à ça, il faut penser à un niveau qui est suffisamment important dans l'air pour causer une infection, pour amener l'innocuité des sujets. Alors, vous pourriez avoir quelques virus dans l'air, il n'y a personne qui va être malade à cause de ça.
Okay.
Vous pouvez traverser rapidement une pièce où la charge virale est assez importante, puis vous ne serez pas non plus infecté. Par contre, si vous passez un certain temps dans une pièce où il y a une charge virale qui est abondante, ben vous allez éventuellement atteindre ce point d'inacuité et vous allez devenir malade. Vous allez
donc, ce sont les activités stationnaires, finalement, donc qu'il faut regarder et il faut s'assurer qu'elles soient pratiquées dans un environnement aéré. Avant de vous laisser aller, au niveau de la ventilation donc des bâtiments, qu'est-ce que vous suggérez aux gens qui nous écoutent, Patrick Champagne?
Ben, c'est d'avoir un bon apport d'air. En fait, on va favoriser l'évacuation de l'air du bâtiment plutôt que la recirculation. Donc, les échangeurs d'air sont utiles, mais ils n'arrivent pas à échanger une grande quantité d'air, alors que d'ouvrir une fenêtre pour permettre l'entrée d'air frais, c'est nettement plus significatif comme effet bénéfique. Ça va de soi. Ce qu'il faut penser, c'est que la présence de virus dans l'air, c'est une combinaison de la quantité qu'on amène dans l'air versus ce qu'on arrive à évacuer avec la fenêtre ouverte et l'air qui sera évacué du bâtiment. Donc, quand on remplace l'air du bâtiment, on vient diminuer la charge qui est à l'intérieur. Et si quelqu'un est malade, ben lui, il va, par la force des choses, contribuer à amener de nouveau du virus dans l'air. Mm. C'est vrai pour les endroits où il y a quelqu'un qui est malade. Il ne faut pas perdre de vue. Chez vous, personne n'est malade. Il n'y a pas de danger. Si vous êtes dans un endroit où on réunit les gens ensemble, faut favoriser une ventilation qui est plus abondante pour réduire les risques de contamination. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement les gens vont être contaminés parce qu'au départ, ça prend quelqu'un qui est malade.
Oui, je comprends. Merci beaucoup, Patrick Champagne, de nous avoir parlé ce matin. Patrick Champagne est biochimiste. Il est spécialiste en qualité de l'air chez Enviro Options. On s'arrête ici. On vient avec vos commentaires tout de suite après la pause. Dites-moi si, d'après vous, votre environnement est assez aéré. Êtes-vous capable de ventiler, d'ouvrir les fenêtres? Et c'est peut-être là où, éventuellement, tu sais, tout à l'heure, on disait, bon, ça va peut-être nous coûter plus cher d'hydroélectricité, là. C'est sûr que si on ouvre les fenêtres cet hiver, la facture risque d'être un petit peu plus importante. C'est peut-être là où il vous faudrait peut-être que Hydro-Québec considère ça et qu'il n'y ait pas d'augmentation de tarifs. Puis peut-être même qu'on regarde... Enfin, le gouvernement, là, il y a peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là pour éviter que les gens se disent « ben, j'ouvrirai pas la fenêtre de peur que ça me coûte plus cher ». À tout de suite, tout le monde. On se parle après ceci. On a Marie-Claude qui nous appelle. Bonjour Marie-Claude. On me dit que vous êtes auxiliaire en santé. Donc, vous allez chez les gens, c'est ça?
Exactement.
Et vous faites quoi? Vous surveillez?
On est situé en préposé bénéficiaire et infirmière auxiliaire. Donc, on fait des soins de maintien à domicile. On peut autant donner de l'insuline que donner un bain. Donc, c'est vraiment large. Okay. Donc, on entend rarement parler de nous.
Ça me fait plaisir de vous donner la parole ce matin. Êtes-vous inquiète de l'environnement, justement? Parce que là, c'est plusieurs environnements. Là. Vous allez dans plusieurs maisons différentes.
Oui, on peut avoir entre 8 à 13 maisons par jour, tout dépendant de ce qu'on fait. Puis moi, la question que je me posais, le spécialiste avant vous parlait d'ouvrir les fenêtres et tout, mais donner un bain à une personne de 90 ans, on s'entend qu'on ferme les fenêtres, on ferme la porte, on monte le chauffage. Donc, nous, on a des masques, je me demande, on a des masques chirurgicales, à quel point, une fois l'humidité dans mon masque, je suis protégée. Parce que je peux pas demander à une personne qui souffre de démence à 90 ans de porter un masque sous la douche. Donc,
Et vous êtes proche, et on comprend qu'on est proche, là. On a une espèce de corps à corps. Enfin, ouais. Je vais poser la question à Marc Hamilton, qui est microbiologiste, qui est avec nous. Puis Hamilton, à cette question-là, qu'est-ce qu'on peut dire à Marie-Claude? Pouvez-vous la rassurer un peu? Effectivement, c'est quand même une activité. C'est difficile de ne pas être proche de quelqu'un comme ça.
Évident, c'est un cas de figure où est-ce que c'est très difficile à interpréter. Et puis, effectivement, lorsque la personne a 90 ans, bien souvent, comme vous dites, là, des fois, elle souffre de l'Alzheimer ou des choses comme ça, elle ne comprendra pas qu'il faut qu'elle porte le masque, elle va réagir. Donc, c'est sûr qu'on crée une proximité. Donc, c'est sûr que pour la personne en tant que telle, ce qui serait, que je vous recommanderais dans des cas comme ça, où est-ce que vous êtes proche d'une personne âgée, ce serait de porter un masque de meilleure efficacité, un masque de N95 qui au moins va protéger la personne à ce que vous transmettiez pas vos microbes si vous étiez porteur d'un virus quelconque. À ce moment-là, je pense que ce serait mieux que vous portiez un masque de meilleure efficacité.
Et on nous parlait tout à l'heure des autres muqueuses. À part la bouche, il y a le nez, mais qui est couvert par le masque, mais les yeux, on a tendance à les oublier un peu. Marc Hamilton, est-ce que ça vous inquiète, vous, la transmission via l'œil?
Bien, il y a toujours un risque. C'est sûr que c'est pas aussi évident que par le nez et la bouche. on sait que le virus va rentrer par nos canaux lacrymaux, les endroits où est-ce qu'il y a de l'eau qui sort de par nos yeux. Là.
Ouais.
Quand on dit les yeux qui pleurent, ben à ce moment-là, ces endroits-là, c'est branché directement avec nos muqueuses respiratoires, donc les sinus, qui fait que si on a exemple le virus sur les mains, par exemple, et qu'on se frotterait les yeux, ben ça pourrait être une voie d'entrée assez facile pour mettre que le virus rentre dans vos voies respiratoires.
Mm-hmm.
Et c'est évident que, oui, c'est important de, oui, d'avoir, surtout si on ne respecte pas le 2 mètres, d'avoir une protection oculaire pour éviter cette transmission-là possible.
Mais merci pour cette réponse. Marie-Claude, j'espère que ça vous a un petit peu rassuré. En tous les cas, le masque N95 semble être important. Est-ce que vous en portez, Marie-Claude, du N95? En avez-vous à disposition?
Et malheureusement, ce n'est pas fourni. Donc, nous, les seules choses qu'on a, c'est des masques chirurgicales. On a la lunette oculaire,
bien okay.
sûr, les gants. Et la jaquette est fournie seulement si c'est une suspicion de COVID ou un positif. Mais non, les N95 ne sont pas fournis. Donc, on travaille, puis petite chose, on doit garder notre masque 4 heures entre chaque patient, mis à part si on a donné un bain ou une douche. Notre masque, on le jette, mais sinon, entre chaque patient, je mets mon masque, je vais faire un soin, je mets mon masque dans un petit sac brun dans l'auto, je remets mon masque chez le prochain patient. On doit le garder 4 heures.
Vous remettez le même masque, là?
On met le même masque.
Ouais.
En général, c'est 4 heures qu'on garde les masques de procédure. Là, c'est une règle à suivre. C'est, vous faites bien. Mais comme je vous dis, c'est le masque N95. C'est sûr que si vous n'avez pas de symptômes, si vous n'êtes pas atteint de la COVID, le masque N95, le masque de procédure est correct. C'est juste dans le cas où est-ce que vous ne savez pas que vous seriez asymptomatique. C'est là que le N95 devient intéressant pour éviter que le virus passe au travers de votre masque de procédure.
Mais que Marie-Claude contamine la personne âgée. Mais mettons que la personne âgée, elle, est asymptomatique. Elle peut contaminer oui. Marie-Claude si elle a juste un masque de procédure et non pas un N95?
Bien, il y a toujours un petit risque. C'est sûr que c'est beaucoup moins pire que si elle n'aurait pas de masque.
C'est
sûr
bien,
que
oui.
le masque de procédure, c'est pas un masque qui est impayable à 100%. Donc, on sait que dans les CHSLD, les personnes âgées, c'est là que les personnes les plus à risque sont très fragiles. Donc, c'est sûr qu'à ces endroits-là, il faudrait apporter, à mon avis, des EPI de meilleure qualité.
Ouais, merci beaucoup. Merci Marie-Claude. Bon courage, lâchez pas. On a besoin de toutes ces auxiliaires en santé aussi. Marie-Claude disait, on nous entend pas beaucoup parler, on s'occupe pas beaucoup de nous, mais c'est des gens qui vont tous les jours au quotidien, qui n'ont pas lâché là, et qui s'occupent des personnes âgées ou qui ont des besoins très particuliers. On a avec nous Jocelyn. Bonjour Jocelyn.
Bonjour Isabelle, ça va bien?
Ça va très bien. Vous avez une question, un commentaire concernant
oui,
la ventilation? Oui.
Moi, j'ai une expérience que j'ai vécue il y a plusieurs années. J'ai quand même 66 ans. Ma fille, à l'époque, avait 3-4 ans. Ben, il fallait que je la porte à la garderie.
Oui.
Et qu'est-ce que me l'a dit l'infirmière qui s'occupait de la garderie? Moi, je lui ai mentionné que j'avais peur pour les virus, les bactéries, tout ça. Elle me dit non. Elle dit, écoutez, inquiétez-vous pas. Elle dit, des enfants, faut qu'ils aient contact avec d'autres enfants, puis ils attrapent le virus ou
ouais.
la bactérie. Ils renforcent le système immunitaire.
Ah oui, ça, c'est ce qu'on appelle la transmission communautaire, dans le fond.
Exactement.
C'est le fait que tout le monde est en contact avec tout le monde, puis qu'on finit par l'attraper.
C'est ça.
Puis qu'on finit par être un peu immunisé. Là.
Exactement. Ouais. Je ne sais pas si les choses ont changé aujourd'hui, mais la question que je me pose en observant ce qui se passe, c'est qu'on confine les gens, on leur fait porter des masques, on les empêche de faire du sport. Bien, c'est tous les éléments, à mon avis, qui affaiblit notre système immunitaire.
Ouais.
Un peu comme on fait d'exercice, là. Si vous ne faites pas d'exercice, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez être moins en forme, vous allez être moins résistant à des blessures ou quoi que ce soit. Mais est-ce que je me trompe? Ça ne serait pas la même chose pour le système immunitaire? Je pose la question
oui,
au médecin.
Ben, il n'est pas médecin, il est microbiologiste, mais Marc Hamilton peut tenter d'y répondre. En tout cas, je veux avoir votre avis là-dessus, M. Hamilton, parce que là, on nous dit encore ce matin, là, c'est entre autres Gaston Deserre que j'entendais plus tôt ce matin dire, lui, il est de la direction de la santé publique, il dit l'immunité collective, c'est pas une option. En voulant dire, c'est pas ça là, qui va être notre médicament ou notre traitement de choix. Là. En même temps, l'OMS, de son côté, dit le confinement, qui est présenté depuis le début de la pandémie comme un outil pour lutter contre le virus, c'est pas la seule façon non plus d'intervenir. En fait, le confinement fait partie aussi d'un large éventail de stratégies. L'immunité collective, qui est la question de Jocelyn, vous la mettez où, vous, dans l'éventail d'outils là, qu'on peut mettre en place pour combattre ce virus-là?
C'est plusieurs questions en une, mais effectivement, c'est l'OMS, ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas de remède miracle hein, pour éliminer les
virus. On a compris ça, ouais.
Mm-hmm. On sait que, bon, l'immunité collective, on sait qu'il y a certains pays qui ont opté pour ça, ils ont un certain succès. Nous, on sait au Canada, au Québec, on a choisi la voie de, on se cache du virus, on attend qu'il y ait un antidote qui va nous guérir de ce virus-là. On parle, puis quand on parle de dire, ben, on est en confinement, on fait pas d'exercice, ben, je dirais, psychologiquement, c'est pire que de ne pas faire d'exercice parce que on parle d'un confinement qui va durer entre 30 et 40 jours. Donc, de ne pas faire d'exercice 30 à 40 jours, c'est pas catastrophique. C'est juste que psychologiquement, un jeune qui, lui, a sa coutume d'aller faire du sport 3-4 fois par semaine parce qu'un sport étude, un sport d'équipe, puis là, le jour au lendemain, il n'y a plus ça, ben c'est plus ce côté-là qui, moi, va donner des dommages collatéraux. On parle d'immunité collective. Bon.
Moi, c'est quoi, là? Juste nous rappeler, là, c'est quoi l'immunité collective pour que tout le monde soit à la même page, là?
Bon, l'immunité collective, je vais vous commencer par des statistiques. Pour pouvoir arriver à une immunité collective, mettons que demain matin, on dirait, on porte plus de masque, tout le monde s'embrasse, puis on pogne le virus. Pour pouvoir éradiquer le virus, il faut qu'il y ait au moins 66% des gens qui l'ont attrapé dans la population. Si on veut vraiment être capable de dire que le taux d'infection est en bas de zéro, surtout que le taux d'infection du virus est au moins de 2 à 3, là, ce qui fait que si on est à 2 ou 3, il faut aller chercher 66% des gens qui l'ont attrapé collectivement. Pourquoi qu'on l'immunité collective, au moment où on se parle, on se dit que c'est pas une option? C'est parce que très peu de gens l'ont attrapé par rapport au reste de la population.
Donc, ça pourrait éventuellement devenir une option, mais quand il y aurait, par exemple, 2/3 des Québécois qui l'auraient eu, là, on pourrait dire, OK, il y a comme une immunité collective.
Exact. Ça peut être très long. Hein. On s'entend que le gouvernement, il veut pas qu'on aille 66% des gens qui l'attrapent en même temps.
Voyez-vous, c'est ça le problème. Puis là, je dois aller à la pause, mais on va revenir avec ça parce que, puis on pourra en parler longuement, là, mais faut-tu l'attraper ou faut pas l'attraper? On revient tout de suite. Non, mais c'est ça la question que bien des gens se posent. Je sais, je vous connais, vous vous dites, est-ce qu'il faut que je l'attrape, la COVID-19, ou il faut que j'évite de l'attraper? C'est toute la question de l'immunité collective. On nous dit que c'est pas une option parce que mon invité Mark Hamilton nous le dit, il faudrait que le 2/3 des Québécois l'aient attrapé pour qu'on puisse vraiment se considérer immunisé. Entre-temps, que doit-on faire? Mark Hamilton, un début de réponse?
Bien, c'est évident que, comme un peu je disais tantôt, c'est que on a choisi l'option d'avoir peur du virus, de pas vouloir l'attraper par peur de remplir nos hôpitaux trop rapidement. Et c'est ce qui fait que l'immunité collective pour nous, c'est on l'attrape quand on est en contact avec une personne, puis c'est ça le principe du confinement qu'on fait. Et je dirais, au-delà de ça, si on prend la Suède, par exemple, qui, elle, a dit, bon, il va vers la prévention, il va pour éduquer les gens à faire attention, à garder sur distance, mais on sait que la Suède, au moment où on se parle, sont loin du 66%, hein, on sort à peu près à 25%, fait qu'ils sont encore loin de leur élection. Donc, au moment où on se parle, il est trop tard de passer d'immunité collective. Il faut vraiment passer vers le plan B, qui est soit que le virus disparaisse de par lui-même dans quelques temps, ou que le vaccin puisse arriver avant le temps.
Ouais. En même temps, le vaccin, on le présente beaucoup comme une panacée, mais bon, d'abord, il retarde. Hein? On espérait qu'il sorte beaucoup plus tôt que prévu, mais là, il y a des ratés. Il va falloir quand même, entre-temps, d'ici à ce qu'on ait un vaccin, trouver d'autres façons. L'OMS, je reviens là-dessus parce que ça m'a vraiment frappé. Le confinement, selon l'OMS, là, ça devrait être un des outils, mais pas le seul. Et eux, ils disent justement, là, et je cite, « Nous en appelons aux leaders du monde, arrêtez d'utiliser le confinement comme principale méthode de contrôle, développer de meilleurs systèmes pour ce faire. » Et on parle entre autres de meilleure ventilation, on en revient à notre sujet d'aujourd'hui, là.
Mais il reste que c'est toujours facile à dire après coup, hein. On s'entend là que 6-7 mois plus tard, on se met à culpa, puis on dit ah, le confinement était-il une bonne affaire?
Non, mais confinement maintenant est-il une bonne affaire?
Ben, moi, je pense que le confinement, maintenant, je pense qu'il faut y aller par secteur. Il faut confiner les gens qui sont vraiment les plus à risque, où est-ce que le virus est vraiment présent. Et c'est ça qui, présentement, on essaye de faire avec les fameuses zones rouges, zones oranges, essayer de confiner seulement les personnes les plus à risque. Et on devrait peut-être encore le faire plus localement encore. Je ne sais pas comment un gouvernement pourrait faire ça, mais je pense que quand on fait confiner, c'est de confiner les personnes les plus à risque ou les gens qui ont vraiment la maladie. Mais ça fait partie de l'équation qu'on verra plus tard, mais on est déjà moins confinés qu'on l'était ce printemps.
Oui, mais quand même. Et il y a des clientèles confinées ou en tout cas qui vivent. Moi, je pense encore aux jeunes. Je repense au fils de Cathy, secondaire 2, pas de fenêtre pendant 8 heures. C'est assez dramatique quand même pour tous ces jeunes là, on a tous pas vécu ça, mais avoir 13 ans, avoir 15 ans, 16 ans en temps de confinement, puis on parle même pas du primaire. Un petit mot sur beaucoup de gens là, qui écrivent sur le taux d'humidité, Mark Hamilton, en terminant. Est-ce que quand il y a trop d'humidité, ça peut être un facteur de risque supplémentaire?
Bien, trop d'humidité, pour ce qui est de la COVID ou des virus, c'est tel que tel, je dirais, la sécheresse est pire.
Ah, bon.
Parce que l'hiver, en tant que tel, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on attrape plus facilement les virus? C'est que nos muqueuses deviennent tellement sèches, ils deviennent irritées, ce qui favorise que lorsqu'on respire une bactérie, une moisissure ou même un virus, nos muqueuses sont enflées et sont plus propices à attraper les virus au niveau de l'air ambiant. Donc, la sécheresse est pire que l'humidité.
Donc, vaut mieux s'assurer que d'avoir une bonne humidité, pas trop sec, et puis d'aérer vraiment, ouvrir, faites de l'air, c'est ça le message. Merci beaucoup, Mark Hamilton.
C'est un plaisir.